à toutes et à tous, chers déconfinés, cénomarins et, comment on dit quand on vient de l'heure, chers amis du Sud également qui nous écoutez au 102.4 et au 95.9. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bien sûr, il est 17h, c'est l'heure de votre Blabla Mix. Vous l'avez entendu, il est là, il trépigne, c'est Monsieur Diop. Bonsoir Monsieur Diop.
Bonsoir Damien.
Comment ça se passe ce soir Monsieur Diop?
Ça va comme il faut, on est là, tranquille, enfin... Oui, ça va, ça se passe. Le déconfinement, bon, un peu de café, pas décaféiné, mais ça va.
Oui, un petit peu trop de café peut-être pendant ce confinement. J'ai lu d'ailleurs que beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, aviez abusé de tabac pendant ce confinement. Moi, j'ai abusé de café. Monsieur Diop me fait signe qu'il a abusé de tout un tas de choses également. il faut qu'on se calme, les enfants. Nous sommes déconfinés. Maintenant, nous devons revenir à la raison et donc ne pas boire plus de 5 litres de café par jour. Mais trêve de galéjade, bien sûr. C'est l'heure de votre Blabla Mix. Le Blabla Mix, c'est une émission rigolote, certes, mais sérieuse avant tout, puisqu'on y retrouve tout un tas de contenus. D'abord, votre agenda en ce moment, un agenda qui se sent un petit peu orphelin en ce moment, on ne va pas se mentir bien sûr, puisque eh bien, il ne se passe pas grand-chose, mais on va quand même réussir à vous parler de 2-3 trucs, on va voir comment on va se débrouiller. On retrouvera bien sûr votre revue de presse, là pour le coup il se passe tout un tas de choses, la France est en ébullition. En même temps, la France est toujours plus ou moins en ébullition, donc il y a toujours des choses à dire. Et puis, bien sûr, on retrouvera le poème de nos amis, les enfants confinés, aujourd'hui déconfinés, ils nous ont écrit des poèmes pour qu'on puisse écouter ça à l'antenne, ça nous fera très plaisir. On retrouvera Monsieur Mansour qui viendra certainement nous parler d'une épidémie dangereuse et mortelle, histoire de nous faire flipper, de nous rappeler qu'à tout instant, eh bien, tout peut partir en live, hein, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Puis ensuite, on discutera peut-être tranquillement de comment s'est passé le confinement, comment se passe le déconfinement. Et puis peut-être qu'on pourrait parler de l'après aussi, d'autres choses, notamment de ce qu'on est en train de vous préparer, de comment on va vous tendre le micro très prochainement, chers auditeurs, pardon, peut-être bien. Et puis en attendant, bah, on va écouter de la musique. Bien sûr, puisqu'on va commencer avec. J'ai remarqué que je faisais tourner une série de tubes à chaque fois en début d'émission. C'est toujours plus ou moins les mêmes morceaux, mon cher Ousmane. Puisque là, c'est Khaled avec Didi qu'on a écouté, je crois, il y a bien 3-4 mois dans une de nos dernières émissions.
C'est fort probable. Après, on a droit d'avoir ses propres tics. Alors,
ah, bah
si,
oui.
Puis... Si c'est ton kiff, Damien, fais-toi plaisir.
Finalement, les derniers Blabla Mix, de toute façon, c'était il y a bien 6 mois maintenant. Donc, on écoute tout de suite Khaled avec Didi sur le Mix des Cultures.
interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Je vais mettre la radio.
Ça va? Oui. 99.
Ok. L'agenda sera peut-être la seule chose à avoir perdu du poids pendant cette quarantaine. En tout cas, il est très, très aminci, bien sûr. Mais il est là quand même. De quoi est-ce qu'on parle?
Eh bien... J'ai mis du temps à comprendre ta blague, bien sûr.
Oui. Chers auditeurs, sachez que vous avez beaucoup de chance de ne pas avoir à me voir. Je peux vous dire que le pauvre Ousmane doit être terrifié à l'idée d'avoir un ours devant lui. Toujours est-il donc que cet agenda est malheureusement très très orphelin d'événements, mais il se passe quand même des choses, puisque aujourd'hui marquait, si je ne m'abuse, la réouverture du jardin des plantes, ce qui pourrait vous permettre, chers auditeurs qui nous écoutaient peut-être depuis Gramont, d'aller vous balader dans le grand jardin des plantes, bien sûr avec le respect des gestes barrières, hein, comme il se doit, bien sûr, on ne s'approche pas à plus d'un mètre d'une autre personne, on porte bien sûr son masque, on fait très attention, on ne mange pas le sable qui traîne par. Ousmane, tu voulais dire quelque chose?
Non, j'allais dire en parlant des règles de sécurité, donc voilà, j'ai oublié d'en appliquer une ici.
Ah oui, bah là, écoutez, j'ai mon masque, voilà. Oui, effectivement, nous enlevons nos masques, hein, bien sûr, vous qui ne le savez pas, chers auditeurs, nous enlevons nos masques pour vous parler, mais soyez rassurés, puisque nous avons mis des filtres à café sur nos micros, donc tout va bien, nous ne risquons pas de tous tomber malades dans les quelques jours qui suivent, ou peut-être, mais parce qu'on sera monté dans le bus. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Eh bien, peut-être bien qu'on aura le droit, dès le 20 juin, bien sûr, aux illuminations de la cathédrale, mon cher Ousmane, puisque tout est annulé, de toute façon, hein. Tout ce qui est le festival Normandie impressionniste, à mon avis, il va pas être très impressionnant, hein, puisque un peu comme ces jeux de mots post-confinement, bien sûr. Néanmoins, on peut espérer, je pense, que la cathédrale soit quand même éclairée dès le 20 juin, et ce jusqu'au 30 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette année? C'est la question que je me pose toute l'année, puisque je trouve que les illuminations de la cathédrale ont pris beaucoup en qualité ces derniers temps. Moi, j'aimais bien. Eh bien, on va retrouver, bien sûr, ceux qui connaissent, hein, bien sûr, chers amis rouennais, Jeanne. Donc, qui met en avant l'histoire de Jeanne d'Arc avec de très beaux effets de flammes, hein, puisque voilà, malheureusement, c'est une histoire qui finit mal, spoiler. Vous la retrouverez peut-être bientôt sur Netflix. Et on va donc retrouver à l'occasion donc, du festival Normandie impressionniste, et bien normalement, la cathédrale représentée avec comment dire, des traits expressionnistes tels qu'on a pu les voir sur de nombreux tableaux de Monet, qui a rendu célèbre notre cathédrale, finalement, au moins que ce soit notre cathédrale qui a rendu Monet célèbre. Enfin, voilà, on espère que ça va bien avancer cette histoire, qu'on va la retrouver quand même malgré les circonstances. On espère surtout, chers amis, en fait j'ai l'impression qu'en ce moment, mon cher Ousmane, on est un peu comme des enfants, c'est-à-dire que ce qui va se passer maintenant, en fonction de comment on va se comporter maintenant, on risque d'être puni plus tard ou pas. C'est-à-dire qu'on pourrait être privé de vacances d'été, là, chers auditeurs. Donc mettez bien vos masques, s'il vous plaît. Mettez bien vos masques et nous, on écoute un petit peu de musique avant de passer à la suite des programmes. On va s'écouter Brookline avec Arrival sur le mix des cultures. Et que se passe-t-il donc en ce moment dans la presse qui vous parle de l'actualité locale ? Eh bien, j'ai malheureusement à vous signaler qu'il ne se passe que des choses en lien avec le Covid-19 et pas forcément des informations très bonnes. Commençons donc par la première, parlons des contraventions, pardon, du confinement. Les contraventions du confinement étaient-elles du bluff ? Est-ce que nous avons eu raison de les craindre quand nous les avons craints ? Déjà, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé par chez vous, chers auditeurs, notamment toi, cher Ousmane, qui était sur le Haut-de-Rhône, mais en tout cas, moi, dans le centre-ville, je n'ai vu quasiment aucun policier. Je n'ai été contrôlé à aucun moment. Donc déjà, on peut se poser cette question, je trouve. Et de toute façon, apparemment, même pour ceux qui se sont fait choper, apparemment, certains se sont fait choper à sortir de chez eux sans attestation, les petits filous, eh bien apparemment la situation risque de s'arranger très très vite au détriment de notre justice, puisque Actu.fr donc, nous parle de l'histoire d'un jeune homme qui a été pris sans attestation de multiples reprises et qui vient d'être relaxé. En cause donc, c'est le fait que les policiers, afin de démontrer qu'il avait violé à multiples reprises le confinement, eh bien ils auraient utilisé un fichier de recensement de contraventions qui originellement aurait été prévu pour recenser les contraventions de la circulation, puisqu'on n'avait pas franchement prévu que ça allait nous tomber dessus, bien sûr. Et donc, de toute évidence, eh bien, ça a permis à son avocat de faire sauter la condamnation. Et ce genre de situation a l'air bien parti pour se répéter, puisque le Conseil constitutionnel s'est saisi de l'affaire, carrément le Conseil constitutionnel. Et apparemment, d'après nos confrères de Actu.fr, eh bien, si le Conseil constitutionnel approuve la décision de la Cour de cassation, c'est compliqué tous ces mots en C, de la Cour de cassation, pardon, eh bien, il n'est pas impossible que une bonne partie des amendes, je dis bien une bonne partie de toutes les contraventions liées à cette histoire de quarantaine du Covid-19, sautent complètement parce qu'elles auraient été inconstitutionnel. Alors la question qu'on pourrait se poser, je trouve, et cher Ousmane, je te la pose, c'est est-ce que éventuellement nos dirigeants étaient au courant que ces amendes étaient anticonstitutionnelles, si elles le sont, et auquel cas ils l'ont juste mis en place afin de nous faire peur, de nous bluffer, de nous effrayer, ou est-ce qu'ils ne le savaient pas et là on est face à un fiasco absolu sur cette gestion du confinement, non ?
Je pourrais juste te dire que l'objectif à ce moment-là, c'était que ça serve de frein à ce que les gens ne sortent pas dehors et qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent sortir sans risquer des prunes. Donc, je pense que l'objectif, elle est atteinte. Après, pour la condamnation, pour récupérer un peu de sous, pour l'État et tout ça, ça pourrait servir. Mais Pourquoi pas que la Cour de cassation, enfin, Conseil constitutionnel trouve que c'est pas bon de ficher les gens, enfin, voilà, sur ces choses-là.
Oui,
et que c'est
compliqué.
Pas bien, et que maintenant, on a le temps de réfléchir, d'analyser, de dire oui, est-ce que ça va pas. Mais à ce moment-là, on n'avait pas le temps. Tout ce qu'on voulait, c'est que chacun respecte les consignes de sécurité. Je pense que ça, c'est objectif atteint, je pense, on pourrait le dire.
Oui. Ça a l'air en tout cas de se ressentir dans les chiffres. Mais parlons donc des chiffres, parlons du personnel hospitalier, parlons de récupérer de l'argent, parlons de primes. Puisqu'effectivement, en ce moment, ça ne va vraiment pas fort pour le gouvernement et le groupe LREM. Entre les députés qui font des blagues très bizarres sur les gens asiatiques ou qui mordent les chauffeurs de taxi, ou bien notre pauvre Premier ministre qui commence à avoir la barbe blanche. Eh bien, en prime, là, le gouvernement se retrouve face à une situation que j'imagine il n'avait pas prévu, puisqu'il a annoncé une prime de 1500 euros pour le personnel soignant engagé durant la période de quarantaine et qui donc a mis sa vie en danger quand même et s'est mis en avant pour nous aider. Et donc, fait surprenant, une pétition contre cette prime vient d'être mise en ligne par du personnel soignant, justement. Alors pourquoi ? Eh bien, pourquoi ils ont mis en ligne cette pétition ? C'était pour lutter contre ce qu'ils appelleraient une prime pour se taire. Pardon, je regarde mes petites fiches. Une prime pour se taire qui servirait à faire oublier que les vrais problèmes, c'est la baisse de la qualité des soins, les manques de postes, les heures supplémentaires souvent non payées, les salaires insuffisants. Bref, une impression que cette prime est là pour calmer tout le monde en faisant oublier qu'en fait, notre système de santé, et je pense que cette situation vient de le prouver de façon à ce que je puisse l'exprimer sans m'engager sur des terrains glissants. Mais enfin, notre système de santé n'est pas très très en forme, de toute évidence. Et ça les énerve vraisemblablement que cette prime serve apparemment à cacher un petit peu la poussière sous le tapis. Ils ont même lancé un hashtag avec balance ta prime. Alors ça, on pourra en discuter, bien sûr. Hein, mais bon, bref, restons sur cette question des primes. D'autant qu'apparemment, il y a un autre problème lié à cette histoire de prime. Et ça, donc, on le retrouve chez nos amis de actu.fr, puisqu'ils ont interviewé Frédéric Louis, qui est secrétaire de la section CFDT du CHU de Rouen, qui nous dit que après la canicule de 2003, il y avait eu aussi une prime, mais il y avait tellement de conditions à remplir que personne n'a pu en profiter, ou en tout cas très peu de gens. D'autant plus que pour l'heure, on ne sait pas qui touchera 500, 1500, ni quand elle sera touchée. Mais bon, en vérité, ce n'est pas la prime la vraie question. Même si on ne crache pas dessus, la vraie question, c'est les salaires des agents hospitaliers. J'ai l'impression que le torchon brûle dans les hôpitaux quand même. Pour des gens, on les a applaudis tous les soirs à 20h. Ils nous ont sauvé la vie et à mon avis, et sans vouloir être trop pessimiste, à mon avis, ils n'ont pas fini de nous sauver la vie cette année. Est-ce que ça ne mériterait pas qu'on se penche tous sur la question de la situation de nos hôpitaux ? Est-ce que même, j'ai envie de dire, mon cher Ousmane, est-ce que les hôpitaux, c'est pas la base ? Est-ce que c'est pas ce qui ferait qu'on ait de plus fonctionnel, quitte à avoir une police désœuvrée, une armée pas forcément au top, des députés qui boivent du vin de chez Leader Price ? Est-ce que ce serait pas mal quand même que notre système de santé soit la base de notre État, mon cher Ousmane ?
Mais moi, je trouve que les politiciens, ils ont du mal vraiment à voir que la société a besoin de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'argent. On a besoin de sentir l'être humain, de se sentir humain. Et je sais pas, peut-être qu'ils ont du mal à mettre ça vraiment en pratique, tu vois, en vrai de vrai, sur l'action du quotidien. Mais c'est de ça qu'on nous avons besoin, parce que les médecins, ces infirmiers, ces médecins, je dis pas qu'ils ont pas besoin de ces 1500, mais ils se sentent insultés avec ces 1500 parce que notre humanité n'est pas prise en compte. Et donc, alors que c'est, je trouve ça fort, quelqu'un qui risque sa vie pour sauver d'autres gens, qu'à la fin on lui dit bravo, je te donne 1500. Et puis voilà, c'est bon.
Oui, mardi, on parlait un petit peu de cinéma. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, à cette scène du Parrain où Pantangeli reçoit un petit billet de la part des frères Rosato et qu'il le prend très très mal, il le prend comme une insulte. Là, est-ce que toi aussi, tu as cette impression que le personnel soignant s'y prend comme une insulte qu'on lui lâche un petit billet alors que ce n'est pas du tout ce qu'il demande, quoi.
C'est exactement ça, parce que justement, avant l'épidémie, les hôpitaux, tout le monde avait toutes ces manifestations. Enfin, il n'y avait pas que les hôpitaux qui manifestaient, mais voilà, aussi, ils étaient là aussi à parler de toutes ces difficultés qu'il y a. Et après cette épidémie, moi, je pensais qu'ils allaient passer en niveau 1 pour dire que c'est une réalité et aussi leur existence est une nécessité pour notre époque, pour notre société. Mais je sais pas, là, avec les 1500, j'ai l'impression qu'on va donner 1500. Après, on dit les problèmes, pour l'instant, débrouillez comme vous avez fait. Alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette pandémie. On ne sait pas. Enfin, oui, voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir avec ce virus. Donc, on a besoin d'eux. Et on ne peut pas dire qu'on vous paye, on a besoin de vous. Non, on a besoin d'eux humainement parce qu'on a besoin de leur attention. Personne ne peut payer pour quelqu'un pour son attention. Tu peux
payer un maçon pour faire monter le mur, mais l'attention qu'il met, ben, tu ne peux pas le payer pour ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Ben, on a besoin que ceux qui nous représentent ben, mettent de la valeur sur ces choses-là qui comptent vraiment parce que c'est ça qui font le ciment de ce que nous sommes.
J'ai l'impression, pour faire une blague qui, je l'espère, ne vexera pas le personnel soignant que je tiens en plus haut respect, que M. Philippe vient d'offrir un mixeur à sa femme pour la Saint-Valentin. Quoi. J'ai l'impression qu'il a été extrêmement maladroit. Il a fait des frais, mais elle préférait un petit peu de considération, M. le Premier ministre, plutôt qu'un petit billet. Bon, on va écouter bientôt M. Mansour qui va venir nous faire flipper. Et donc, en attendant, eh bien, il nous a demandé de passer certains morceaux qui sont sortis aujourd'hui, mais en 1992, c'est leur anniversaire. On va donc commencer avec un morceau de Monsieur Ice-T, que je connais moi surtout comme acteur dans la série New York Unité Spéciale, mais qui avant faisait du rap. Eh bah oui, mon cher Ousmane, je suis désolé. Ice-T, donc.
Il y a des rappeurs qui finissent policiers.
Eh oui, bah oui. Oui. Ice-T, donc, avec OG Original Gangster sur le mix des cultures.
This is Ice-T. Get to the point. Ice, what do you think about this year not being so hard? Maybe if you would dance or something.
We were also thinking about maybe changing your haircut, maybe a little glitter in your wardrobe. You know, spice it up.
10 years ago, I used to listen to rappers flow, talking about the way they rock the mic at the disco. I liked how that stuff was going down. Dreamt about ripping the mic with my own sound. So I tried to write rhymes something like them. My boy said, that ain't you, Ice. That stuff sounds like them. So I sat back, thought up a new track. Didn't fantasize, kicked the pure facts. All the suckers got scared cause they was unprepared. Who would tell it how it really was, who dared? A young brother from the West Coast, L.A. South Central, fool where the Crips and the Bloods play. When I wrote about parties, it didn't fit.
Six in the morning.
Yeah, that's it.
OG, original gangster. OG, original.
Someone always died. When I tried to ride happy, yo, I knew I lied. Cause I live a life of crime. Why play a blind? A simple looking anyone with 2 cents with no I'm a hardcore player from the streets. Rapping about hardcore topics over hardcore drum beats. A little different than the average though. Jet you through the fast lane, drop you on death row. Cause anybody who's been there knows that life ain't so lovely on the blood so fast track. That invincible junk don't work. Throw you in the joint, you'll be coming out feet first. So I blast the mic with my style. Sometimes I'm ill, and other times buck wild. But the science is always there. I'd be a true sucker if I act like I didn't care. I rep for brothers just like myself. Dazed by the game in a quest of extreme wealth. But I kick it to you hard and real. One wrong move, and your cap peeled. I ain't no superhero, I ain't no Marvel comic. But when it comes to game, I'm atomic. And dropping it straight, point blank, and untwisted. No imagination needed, cause I lived it. This ain't no damn joke, this thing is real to me. I'm Ice-T. OG.
OG. Original gangster. OG. Original.
Out at the disco, two brothers stepped up to me, said, hey, yo, Ice, we don't think you're down, what set you claiming? E drew the Glock, yo, my set's aiming, dumb sucker buster try to roll on me, please, I'm protected by 1,000 MCs, and hoodlums, and hustlers, and bangers with Jerry Curl, we won't even count the girls, cause they got my back, and I got theirs too, fight for the streets when I'm on Oprah or Donahue, they try to swear to brother, but they just didn't figure, that my wit sets quick as a hair trigger.
Not your everyday type prankster.
I'm Ice-T, the original gangster.
OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster.
So, step to me if you think that you're ready to. Got on your bulletproof, well, mine's going right through. This ain't no game to me, it's Hall of Fame to me. Without respect from the streets, so I don't claim to be the hardest young brother on earth. Catch me slipping, I can even get work. But I don't slip that often, there's a coffin waiting for the brother who comes up soft when the real crazy stuff goes down. Take a look around, all them suckers can't be found. They talk a mean fight, but fight like hoes. I'm from South Central, fool, where everything goes. Snatch out your car so fast you'll get whiplash. Numbers on your rooftop, but when the cops is passed, gangbangers don't carry no switchblades. Every kid's got a Tech 9 or a hand grenade. 37 killed last week in a crack war. Hostages tied up and shot in the liquor store. Nobody gives a
children have to go to school.
Well, mine's good luck, cause the city's messed up bad. I use my pad and pen, and my lyrics break out mad. I try to write about fun and the good times, but my pen yanks away and explodes and destroys the rhymes. Maybe it's just cause of where I'm from. L.A., that was a shotgun.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et donc voilà, après ce morceau de Ice-T, OG Original Gangster, on retrouve The Original Gangster des Hauts-de-Rouen, bien sûr, Monsieur Mansour qui nous parle en ce moment, si je ne m'abuse, de sujets très très liés à l'actualité, donc d'épidémie, Monsieur Mansour. Voilà. Donc, bonsoir.
Bonsoir. Donc ceci, on va parler d'une épidémie qui a en fait deux versants. Donc sa première souche, en fait, c'est pas qu'elle a réellement été découverte, mais en fait, il y a un virus qui sévit en Allemagne vers les années 1960, qu'on va appeler virus de Marburg. En fait, qui appartient à la filoviridae, qui en fait est la même famille que le Ebola dont on va parler. Et en fait, à l'époque, on le rencontre en Allemagne. Et en fait, on se rend compte qu'il venait de singes qui avaient été envoyés d'Afrique. Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que les singes qui étaient en Allemagne ont contaminé quelques humains. Et d'autres, en fait, la même chose s'est produite dans certains pays de l'Est.
Oula, oula, oula.
Donc ça, c'est juste le petit début pour ce petit. Et en fait, c'est dans les années 70 où justement une affreuse épidémie va sévir dans la ville de Nzra, située à la frontière du Soudan et du Zaïre. Et en fait, il s'agissait de trois employés de coton qui, d'un seul coup, ont une espèce de pneumonie sanglante. Voilà.
Ah oui, ça devait être charmant, effectivement. Ouais.
Donc, à l'époque, on va identifier le premier cas. Le 27 juin 1976, cet homme souffrait d'un sévère état fébrile de douleurs thoraciques et de céphalée. Mmh. Quelques jours plus tard, son état s'est totalement compliqué avec des vomissements hémorragiques.
Oui, là, effectivement, ça s'est compliqué, oui.
Des expaties, des diarrhées sanglantes. Il fut hospitalisé et le 30 juin, et en fait, le 30 juin, six jours après, le 6 juin, il décéda.
Ouais. Donc il est mort d'une fièvre hémorragique en fait.
Et en fait il a été soigné par son frère d'abord au domicile et son frère lui aussi contracte la maladie et des symptômes similaires et tout aussi violents. Et en fait lui, non seulement c'était plus violent mais en fait curieusement il va quand même s'en sortir mais avec des séquelles,
d'accord,
avec une longue convalescence. Et en fait il y a un deuxième magasinier de cette fabrique de coton. Et en fait, là, l'homme, c'est pareil, lui aussi. Donc lui, on l'admet à l'hôpital le 12 juillet, il meurt le 14. Et en fait, la femme du premier aussi a contracté ce fameux, qui s'appellerait Ebola, d'ailleurs, pour une petite anecdote après, qui en fait, à l'époque, on l'identifie par le MVE, qui est une maladie vasculo-hémorragique.
D'accord.
Et succomba, en fait, elle va succomber le 19 juillet. Et en fait, au fur et à mesure, on voit que de plus en plus de gens sont de plus en plus contaminés. C'est en train de s'étendre. Et en fait, le problème, c'est que c'est cette maladie qui est en train de s'étend sur le long d'un fleuve qui s'appelle Ebola.
D'accord, ok. Bah, j'imagine que ce fleuve a dû changer de nom, que les gens s'en tiennent à l'écart. Est-ce que ça pourrait être lié à l'eau, peut-être, ou est-ce que c'est parce que les populations
sont concentrées? C'est ce qu'ils pensaient au tout début. D'abord, ils pensaient à ça. Après, ils vont voir que certains singes sont eux-mêmes contaminés. Donc, on va accuser les singes aussi. D'autres vont accuser d'autres animaux qui ont été plus ou moins contaminés. Et en fait, au fur et à mesure que les villes sont de plus en plus touchées, la ville de Juba. Et en fait, comme les gens restaient plus ou moins chez eux, et en fait, les morts, dans certains coins, on les brûlait directement.
Ouais.
Et dans d'autres, on les enterrait le plus vite possible. L'épidémie va s'arrêter le 25 novembre.
Oui, c'est le défaut, entre guillemets, de ces virus extrêmement virulents comme Ebola. C'est que comme ils tuent assez vite, les gens ont assez peu le temps de transmettre la maladie. C'est aussi le problème qu'on a avec le coronavirus, finalement. Le problème inverse.
Voilà, à peu près. Et donc, à l'époque, on se rend compte que là, on était du côté du Soudan. Mais le problème, c'est que ça va s'étendre, en fait, au Zaïre. Et c'est le 25 septembre, une religieuse belge fut transférée à l'hôpital de Kinshasa. Et en fait, elle l'a contractée. Et elle succombera le 30 septembre,
d'accord,
d'une fièvre hémorragique, elle aussi. Non loin de Kinshasa, dans la rivière nommée justement Ebola, ça continue un peu. On est toujours dans la même période, justement. Et cette flambée de fièvre hémorragique, qui en fait... À l'époque, on se demandait vraiment d'où ça venait, bon, les singes, les autres. Et on cherche en fait à savoir d'où est cette famille. Et c'est là que c'est la Filoviridae, qui en fait comporte deux genres de virus identifiés, celui de Marburg qu'on vient de voir et le virus Ebola.
Ouais.
Et en fait, le premier qui avait été découvert dans les années 60, lui, était mortel, mais à très petite proportion. Et là, on a une variété qui arrive, qui est beaucoup plus violente. Il faut savoir que le virus Ebola sévit toujours.
Ouais.
Et de façon toujours aussi violente. Donc, ils ont des structures, et ils étudient la structure, la molécule. Et petit à petit, ils arrivent plus ou moins à essayer d'extraire un vaccin à tout cela. Et à l'époque, en fait, pour, en 76, ça avait fait 318 morts.
Okay, oui.
Et en fait, il va y avoir une espèce d'accalmie. Et en 79, ça repart et ça se reproduit exactement dans les mêmes régions. Et là, ça vient, et là on dit, bon, bah, la dernière fois, c'était les singes, là, ça viendrait de quoi? Et là, le taux de mortalité, qui était à l'époque au tout début de 37%, grimpe à 65%.
Ah là là. Il y a eu des mutations pas très sympas.
Bah justement, c'est ce qu'on est en train de voir. Et en fait, là, à partir de là, ça explose totalement. Et pendant cette période, juste, il y a vraiment des 5, comme on appelle aujourd'hui clusters, mais en fait 5 sites très actifs.
Ouais.
Et la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Congo. Donc c'est en train de s'étendre. Et d'ailleurs, curieusement, c'est exactement la même carte qu'on retrouva dans les années 90.
Ouais.
C'est la même région qui va être encore touchée.
Il doit y avoir un facteur environnemental qui nous échappe, cher Doc Mansour.
Oui, et en fait, là, on se dit, bon, c'est dans 2014 qu'on va découvrir qu'en fait, un des enfants qui avait été touché justement dans l'épidémie des années 90, qui lui, en fait, aurait été contaminé par un arbre.
Un arbre ?
Un arbre où justement cette molécule était dessus.
Donc quelqu'un aurait touché l'arbre et l'enfant l'aurait touché aussi.
Voilà,
et...
alors là, il y a tout, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tous les scénarios qu'on veut. En fait, le virus Ebola, en fait, en 1989, va faire une apparition dans un continent auquel on ne s'attendait pas, en Virginie, juste en dehors de Washington, D.C.
D'accord. Bon, finalement, c'est pas si surprenant que ça. Mmh. C'est un pays où il y a beaucoup de diaspora étrangère, beaucoup de trajets, tourisme, j'imagine. Donc, pourquoi pas?
Oui. Mais curieusement, là, cette fois-ci, les contaminations viennent aussi des singes, mais les singes ne venaient pas d'Afrique, mais des Philippines.
Oui, ça, c'est plus inquiétant, déjà.
Et en fait... cette installation du virus, à savoir d'abord en Virginie, puis après au Texas, jusqu'en fait de 89 jusqu'en 92.
C'est inquiétant quand même.
Ouais, et alors, il y a eu quelques centaines de morts, parce que ça a été très très vite, contenu. Et en fait, ça reprendra en 96 du côté du Texas encore une fois.
Ok.
Mais là, cette fois-ci, dans l'épidémie de 96, aucun mort.
Ouais.
Ça a été très, très bien soigné, ça a été pris en charge très, très vite. Et les études épidémiologiques, elles, avancent de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sait que la manifestation d'Ebola, elle a eu lieu à Mambara et à Gulu, dans l'Ouganda, en 2000-2001, infectant 425 personnes et transportant un taux de mortalité de 53%.
Oui, alors que, bon, pour le coup, c'est pas pour faire mon complotisme, mais si on arrive si bien à la soigner quand elle est aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on galère autant à la soigner quand c'est...
soit c'est pas pris en charge à temps, ou soit on fait pas attention, les gens meurent un peu...
Manque de moyens, peut-être.
Aussi, il y a aussi le manque de moyens, le niveau sanitaire. Et en fait, cette manifestation d'épidémie, en fait, c'est toujours le problème, c'est... ils se rendent compte qu'en fait, les gens qui n'étaient pas contaminés sont souvent contaminés au moment de l'illumination du mort.
Ouais,
au moment des enterrements, où en fait, là, ça se produit de plus en plus. Sans employer, en fait, le problème, c'est que si on n'emploie pas des mesures drastiques, c'est que cette maladie qui continue à toucher l'Afrique encore à l'heure actuelle où je vous parle, reste avec un taux de mortalité de 50% en Afrique.
On l'a vu tout à l'heure avec le Covid-19. En plus, c'est difficile d'empêcher les gens de participer à des cérémonies funéraires, d'aller voir tout ça. Donc vraiment, est-ce qu'il y a peut-être un espoir de se débarrasser d'Ebola un jour?
Sûrement. Et là, en fait, actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle, en 2020, parce qu'il y a une autre épidémie qui avait démarré en 2019, en fait, ça touche le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Zaïre, la région du Gambo, la République du Congo et la République démocratique du Congo.
Alors, celle-ci fait plus peur aux gens que les précédentes, ou c'est parce que là, ce coup-ci, je suis en âge de me rendre compte qu'on en parle beaucoup?
C'est peut-être parce qu'on en parle beaucoup, mais actuellement, le problème, c'est qu'il y a d'autres régions qui ont été touchées entre deux et qui sont légèrement plus éloignées. C'est ça qui est plus inquiétant, c'est comment la maladie a pu voyager et est-ce que c'est exactement la même forme? Parce que Actuellement, en 2020, depuis le début de l'année, on s'est rendu compte qu'il y en avait en Guinée, au Nigeria, au Libéria et au nord du Sierra Leone oriental, qui avait commencé en fait en 2014 et qui ne s'est pas arrêté.
Oui, c'est pas très rassurant. On a l'impression que la maladie est en son lit à chaque nouvelle épidémie, en fait.
Et en fait, le problème, c'est que là, les enquêtes actuelles que l'OMS avait déclenchées, actuellement, il y a 2000 victimes avec un taux de mortalité prévu de 50%.
Bon, de toute façon, mieux éviter de manger du gibier, je crois, ça c'est clair et net. Pangolin ou primate, on évite d'en manger.
Oui, mais là, les études disent que c'est soit une bactérie en fait, qui serait peut-être végétale et qui se transmettrait aux animaux et qui après se transmettrait aux hommes, parce que c'est ce fameux arbre qui est en train d'être étudié ouais. depuis peu. Mais ils se rendent compte que oui, il a des germes en fait, de cette maladie. Donc en fait, on ne sait pas trop d'où il vient.
Mais ça, c'est parce qu'on sait si c'est une bactérie ou un virus, Ebola. Voilà. Je croyais que c'était un virus, moi.
Oui, c'est un virus. C'est un virus, d'accord. Après, c'est le bacille, tout ce qui est à l'intérieur.
Okay. Oula, oui, ça devient complexe. Là.
Voilà, c'est un peu plus complexe que ce qu'on pouvait penser. Et en fait, un de ceux qui recherchent surtout cette maladie, principalement en Afrique, ils sont plusieurs, mais il y a un Russe qui a écrit un article entièrement en anglais par rapport à ce fameux arbre où il y aurait des bactéries qui, au fur et à mesure, des espèces ou des individus évoluent très, très vite. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est Ebola évolue très vite
ouais.
et parfois peut vous foudroyer en 3-4 jours comme elle peut vous foudroyer en 6 mois.
Oui, c'est ça le danger finalement de ce genre de maladie.
Plus la maladie est inconnue, plus elle évolue vite et plus elle est dangereuse.
Et les virus, ça évolue très 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 vite et c'est pas oui. très 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 facile à tuer, même avec de l'hydroxychloroquine, chers auditeurs.
Voilà, on a vu à peu près le tour de Ebola jusqu'à nos jours.
Alors est-ce qu'on se garde le suspense de la prochaine fois? Est-ce qu'on peut peut-être éventuellement savoir de quelle maladie on va parler?
Non, on ne parlera pas de maladie, on va reprendre un peu notre cours d'habitude. Je ferai un résumé de ce qui avait été dit dans les chroniques avant le confinement.
De toute façon, même si c'est un peu hors sujet, avant d'envoyer la musique, Ebola, c'est quand même la dernière grosse épidémie inquiétante à part le Covid-19, en fait.
Voilà.
Ouais. Bon, bah écoutez, histoire de se redonner le sourire et d'arrêter de penser à des fièvres hémorragiques, bien on va écouter les Jackson 5 avec The Love You Save sur le mix des cultures.
Right now, here they are again singing. The Love You Save from their new album, ABC. Just like making friends.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Les Jackson 5 avec The Love You Save, un morceau également sorti, si je ne m'abuse, un 14 mai. Et tout un tas de choses sortent le 14 mai, mon cher Ousmane, puisque j'ai vu qu'une lycéenne rouennaise avait écrit une lettre publiée apparemment dans le Paris Normandie pour monsieur le président. On va en reparler tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais te poser une question, histoire de se détendre après avoir parlé de choses abominables et terribles, telles que Ebola, qui est potentiellement une des choses les plus horribles qu'on ait jamais vues sur cette planète. Comment ça se passe, toi, ce déconfinement? J'entends, il ne se passe rien, on va pas se mentir, il y a assez peu d'événements. Une fois qu'on a été voir le Jardin des Plantes et une fois qu'on a été voir l'exposition photo, on a plus ou moins tout vu. Est-ce que tu t'ennuies? Comment ça se passe? Est-ce que les Rouennais s'ennuient?
On peut s'ennuyer, mais je pense qu'on a tous compris qu'il faudrait qu'on soit inventif, que ce soit pour nous, pour les actions qu'on fait, ou pour trouver d'autres façons aussi de se divertir. Le foot, on ne peut pas le faire. Donc, j'imagine ceux qui pratiquent les sports de combat, tu ne peux pas le faire. Donc, voilà, c'est aussi... Je trouve que c'est l'occasion pour nous de se servir de nos têtes comme il faut maintenant. De dire, ceux-là, ils sont morts, on peut réinventer parce que ceux qui sont morts, ils ont été inventés. Donc, ça, jamais, je ne pense pas qu'on ait tel moment où on nous dit seulement, serre-toi de ta tête et invente tout ce que tu faisais avant que tu ne peux pas faire. Je trouve que c'est une opportunité.
Et du coup, ça te permettre éventuellement de te pencher sur des types de divertissements que tu n'aurais même pas envisagé plus tôt?
Oui, je fais de la marche, comme un vieux.
il faut
ça
bien.
Ça n'a rien de péjoratif. Je veux dire, on croit que c'est des activités qui sont réservées aux vieux. Mais non, mais un jeune homme, un homme de mon âge, tu peux sortir marcher pendant 2 heures parce que tu n'as pas d'occupation durant 3 ou 4 jours et que tu as besoin de sortir toute cette énergie. Tu marches pendant 1 heure ou 2. Mais t'es tout seul, donc tu peux faire 5 fois le tour de ta maison, parce que voilà, avant c'était ça. Maintenant, on peut aller jusqu'à 100 km de chez nous, donc voilà, t'as de quoi marcher quand même pendant un certain temps, si tu veux, tu vois. Enfin, voilà, c'est des choses. Et puis, il y a aussi de la méditation que d'autres font maintenant. Et il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Tu peux faire du footing, ça c'est toujours valable, tant que tu es tout seul, c'est des choses qu'on peut faire. Et il y a des jeux de société qui étaient passés has-been, mais maintenant ça peut revenir à... Si maintenant on a droit en famille, on peut passer du temps comme ça. Et puis il y a tout un tas de choses qu'on peut aussi tisser des liens de famille aussi. Toutes ces choses-là, c'est des sports. C'est du sport aussi, ça.
Oui, ça peut l'être, effectivement. Effectivement, ça peut l'être, oui, oui. Mais est-ce que, finalement, est-ce que cette situation ne nous aurait pas permis de retrouver certains trucs qu'on avait oubliés? Par exemple, le plaisir de marcher. Finalement, c'est vrai que là, grâce aux réseaux astuces, on avait commencé à développer, je pense, un certain agacement vis-à-vis du fait de marcher tout le temps. Est-ce que là, cette quarantaine nous aurait pas rendu la vraie valeur de la marche? Parce que quelque part, vous n'avez pas connu, les jeunes, la fin de la quarantaine, ça partait sur son smartphone, ça envoyait l'attestation. Mais au début, pour aller faire ses courses, il fallait quand même copier la moitié de la Bible là, avec son stylo sur une feuille pour le présenter au gars si tu n'avais pas une imprimante. Et ça, là, fallait la mériter ta balade, non?
Oui.
Est-ce que ça te donne envie de découvrir des coins que tu n'as jamais été voir? Tu te battes dans la forêt, non? C'est ça?
Effectivement, j'ai découvert que ça faisait des années que je ne connais qu'un seul parcours, mais en fait, que si je voulais qu'il y en avait 2 autres en plus, il fallait juste, sans ce confinement, je continue mes petites habitudes, je reviens, je fais mon parcours, je rentre chez moi. Parce qu'avec ce temps-là, je me suis dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Aller découvrir des endroits où je n'ai jamais mis les pieds. J'ai trouvé des arbres immenses où je peux me poser en dessous 5 minutes, histoire de dire, je ne savais pas qu'il y avait de tant de choses qu'on peut découvrir dans la forêt. Je crains seulement de tomber sur une famille de sangliers.
Ne t'inquiète pas, la peste porcine les aura bientôt tous tués. Bien sûr, nous constatons en ce moment les maladies, ça va très très en forme. Mais il y a d'autres problèmes. Tout à l'heure, on parlait d'Ebola, bien sûr, cher Ousmane. Tu nous parles de la forêt, parlons un peu d'écologie, puisque la question des épidémies et la question de l'écologie n'est pas forcément ne sont pas forcément séparées, merci, l'une de l'autre, puisque vraisemblablement, si j'ai bien compris, cette maladie, on la tiendrait éventuellement de certaines proximités avec des animaux. On sait que la peste porcine est causée par les élevages intensifs qui sont en proximité avec d'autres animaux sauvages, notamment les sangliers, parce qu'on va rogner sur leur territoire. Et Ebola, on peut supposer que c'était plus ou moins la même chose. Et c'est donc dans ce cadre, je vous en parlais il y a 5 minutes, que Marie Léveillé, donc, qui est en terminale au lycée Saint-Baptiste de la Salle, Jean-Baptiste, pardon, de la Salle, excusez-moi, à Rouen, a écrit une lettre au président de la République, pardon, M. Emmanuel Macron, pour lui parler de la véritable guerre, hein, selon elle, qui est la guerre écologique. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais grosso modo, elle dit que notre ville est devenue un synonyme de catastrophe écologique et des excès de notre modèle industriel. Et en fait, elle l'appelle éventuellement à repenser notre système socio-économique qui pourrait bien nous causer à notre perte. Et c'est vrai qu'effectivement, ça devient un petit peu inquiétant. Là, face à cette épidémie, on ne va pas se mentir, on est plus ou moins déconfinés parce que sinon l'économie va complètement s'effondrer. Ça devient très compliqué parce que là, on n'arrive pas aux limites d'un système. Ousmane, je vais te laisser avec une question bien complète. Ousmane, est-ce que vous ne trouvez pas éventuellement que nous atteignons les limites de notre système économico-social?
Je sais pas, mais je trouve quand même qu'on peut réfléchir sérieusement maintenant. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons adoré du roi argent ou dieu argent, ça dépend comment on est en affinité avec ce truc-là. Mais est-ce que l'argent nous a donné ou nous a rendu notre humanité ou a, je sais pas, a doublé notre humanité? Certainement, bien sûr. Mais aussi, ça a enlevé aussi d'autres aspects de notre humanité. Et du coup, en enlevant ça, on a enlevé aussi la terre, qui est aussi un organe vivant. On l'a considéré comme une matière qu'on peut faire tout ce qu'on veut de lui, le bombarder, le dépouiller, le coiffer, tout ce qu'on veut. Donc, et toutes ces choses, maintenant, on les paye parce qu'on voulait l'argent pour avoir une bonne santé, une belle vie. Même avec cet argent, la terre nous envoie ses gaz, nous envoie ses microbes, ses arbres, ses plantes, les animaux qui mangent. Vous avez compris, c'est une chaîne, on est tous dedans. Nous ne pouvons pas décider seulement de dire ce que nous voulons, ce que nous pouvons, nous le faisons. Tout simplement sans penser aux conséquences. Que ce soit que ça met 100 ans, peut-être que nous payons la facture de nos aïeux et que nos petits-enfants payeront la facture de ce que nous faisons maintenant. Je veux dire, voilà, ça pourrait, tout un tas de choses peuvent s'expliquer, mais on peut juste se mettre au milieu des choses. Je pense que c'est une bonne chose.
En tout cas, je te dirais avant d'envoyer de la musique que face à tant d'optimistes, tu es plus ou moins la phase optimiste de notre duo, je suis plutôt la phase pessimiste. Je suis persuadé que ce soir sur les réseaux sociaux, quand on ira voir les commentaires sur la lettre de cette jeune femme qui s'engage, quoi qu'on en dise, on va lire des choses qui auront tendance à nous faire perdre espoir en l'humanité. Et bien voilà, je perds espoir, mon cher Ousmane.
Mais non. On ne va pas perdre l'humanité. C'est nous, l'humanité, si on perd en foi à nous-mêmes, à qui on va avoir foi? Mais c'est vrai que, oui, quand on voit déjà Macron, qu'est-ce qu'il fait avec les infirmières, il leur donne 1 500 euros, taisez-vous, alors qu'avant ce problème, il y avait des gros soucis. Malgré tout ça, ils ne nous ont pas abandonnés, ils ne nous ont pas laissé tomber. Je pense qu'on doit être plus que ça, plus que 1 500.
Si on n'a plus foi en l'humanité, mon cher Ousmane, il nous reste toujours une échappatoire éternelle, une porte ouverte vers un monde meilleur. Et bien, c'est la musique, bien sûr, tu le sais. Et on va écouter un chanteur que j'aime beaucoup, car c'est un chanteur extrêmement optimiste qui joue toujours la musique joyeuse avec des paroles qui vous annoncent des lendemains qui chantent. On va écouter Johnny Cash avec Redemption sur le mix des cultures.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down and ran to the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell in the deep crimson dew. The tree of life grew, and the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From the tree streamed the light that started the fight. Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine. My old friend Lucifer came, fought to keep me in chains, but I saw through the tricks of 666. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from the feet it came down and ran to the ground. And a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And with the numbers that came through the fire and the flood, I clung to the tree and was redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from the feet it came down and ran to the ground.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Et on parlait hier de cinéma avec l'ami Ousmane. On parlait notamment de la situation très difficile des salles de cinéma qui vont déjà devoir essuyer un long moment sans avoir de revenus puisque eh bien, ils sont fermés par la loi actuellement et qui risquent même de subir une crise de confiance de la population qui pourrait bien se méfier de la promiscuité des salles de cinéma et ne pas y revenir tout de suite. Eh bien, il y en a qui ont trouvé la bonne idée. En fait, ils l'avaient eu avant même que toute cette histoire commence. Mais c'est l'Omnia de Rouen qui devait partir en travaux et qui a donc profiter de la quarantaine pour commencer tout de suite à fermer pour travaux, donc, et qui ne rouvrira pas avant début 2022, bien sûr, chers auditeurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans les grandes lignes, il va y avoir une véritable rénovation des lieux, changement de matériel, changement également d'agencement. Certaines salles vont devenir, me suis-je laissé dire, des espèces de petits cafés, donc très conviviaux. On pourra choper tout un tas de maladies exotiques qu'on aura été chopé en buvant du café de pangolin ou des tartes de chauve-souris, bien sûr. Enfin bref, l'Omnia donc va revenir et en prime, on ne nous laisse pas sans cinéma puisque apparemment la mairie aura donné son accord pour ouvrir un cinéma éphémère à la Halle aux Toiles. Et je peux vous dire qu'un cinéma éphémère, ben, ça peut être toute une aventure. Moi qui ai grandi non loin du fameux théâtre Mondori où parfois on tend un drap sur la scène pour diffuser des films, eh bien ça peut être... Alors bien sûr c'est bizarre, mais ça peut être une bonne expérience. Et puis dans le même genre, mon cher Ousmane, dans la catégorie allez viens, allons choper le Covid-19, eh bien les marchés sont en train de rouvrir à Rouen. Et si j'ai bien compris, bien sûr, ce qui est écrit sur le site de la mairie, eh bien c'est aux commerçants de faire respecter la distanciation et d'interdire aux clients de toucher les produits. À mon avis, les commerçants vont très vite se retrouver complètement débordés et bientôt on va être reconfinés.
Après, je trouve que c'est quand même une bonne chose que de donner un peu de responsabilité, de responsabiliser les commerçants. Et du coup, c'est quoi? Bah, le produit, bah, maintenant, ça va donner un autre type d'emploi. Le commerçant, il sera obligé d'embaucher quelqu'un pour surveiller pendant qu'il s'occupe de vendre à ses clients, de parler, discuter avec ses clients. Bah, quelqu'un va surveiller les produits que tout le monde ne touche pas parce qu'il ne pourra pas faire les deux en même temps. Je pense que si on veut, on peut vraiment faire des choses. Parce que le commerçant, il pourra juste dire, oui, ça va me faire des charges. Mais d'une façon ou d'une autre, ces problématiques existaient déjà avant le Covid, où il y avait certains emplois où l'État aidait. Pourquoi l'État ne pourrait pas, dans un autre sens, faire aider ces genres d'emplois-là?
Les bruits que vous entendez sont bien sûr dus au fait que Ousmane est en train de faire un massage thaïlandais à son filtre à café, bien sûr. Eh bien oui, de toute façon, je suis intimement convaincu qu'il ne faut pas écouter les cyniques comme moi, mon cher Ousmane, et que c'est les optimistes à qui appartient l'avenir. Voilà, écoute, j'espère que ça va très bien se passer, ces marchés. Mettons que demain, les cinémas rouvrent. Est-ce qu'il y a un film en particulier que tu aimerais aller voir? Est-ce qu'il y a un film que tu regrettes de ne pas avoir vu, mon cher Ousmane?
Un film que je regrette? Non, je n'ai pas le regret pour les films, mais le film que j'aimerais voir et que j'espère pouvoir toujours continuer à le voir, bien sûr, c'est la trilogie du Parrain.
Ah bah oui, là c'est peu probable qu'il sorte au cinéma très prochainement.
Il me manque pas plus que ça.
Mais il est très bien aussi, le troisième. Il faut arrêter cette histoire, chers auditeurs. Tout de même, le troisième Parrain est pas si mal. Bon, bref. Écoute, mon cher Ousmane, je crois que nous allons rester là pour aujourd'hui. Demain, je pense que nous allons revenir à une structure d'émission plus classique puisque nous aurons un invité. Nous avons une interview qui traînait dans les placards de ce pauvre monsieur Albatek que, si je ne m'abuse, on n'avait pas pu diffuser en entier il y a 2-3 ans quand on faisait encore le Blabla Mix, chers auditeurs. Et puis, on a déjà commencé à booker quelques invités pour la semaine prochaine. Donc, on va avoir ça et puis on vous prépare tout un tas de bonnes choses pour vous rendre la parole grâce notamment à monsieur Finovitch. Je n'en dirai pas beaucoup plus. En tout cas, je vous remercie, chers auditeurs, de supporter ma mauvaise humeur et de venir nous écouter tous les jours à 17h. C'est un plaisir pour nous de monter avec nos petits bus et nos petits gants, nos petits masques pour venir faire cette émission pour vous donner la parole aussi dans ces temps pas toujours faciles. On remercie bien sûr nos amis de Gramont, que j'oublie de saluer à chaque fois, alors qu'ils sont là, les amis de Gramont. Ils ont un très beau parc en plus. J'ai hâte de redescendre, venir vous voir pour faire mon Gramont à moi quand la situation ira mieux. Et puis, on salue bien sûr les amis de Évreux et du sud de l'Eure, de chez Principe Actif, au 95.9 et au 102.4. J'ai vu qu'il s'était passé des choses pas très joyeuses pendant le confinement aussi à Conches-en-Ouche. On salue les habitants de Conches-en-Ouche. D'habitude, on rigole en disant votre nom. Et puis finalement, vous voyez, Conches-en-Ouche, bah, c'est une ville comme les autres. En plus, je me suis laissé dire que c'était une très belle ville. On salue les habitants d'Évreux, bien sûr, qui est une ville où je suis allé très récemment, avant d'être enfermé, bien sûr, pour boire un petit verre de soda dans un bar dont je ne dirai pas le nom, et qui est une très chouette ville aussi. Enfin bref, vous le sentez, chers amis, j'ai envie de voyager, et je crois que même juste prendre un bus pour descendre dans l'heure pour aller voir les copains de Principe Actif me ferait beaucoup de bien. On a hâte. Et puis bien sûr, je salue monsieur Ousmane. Merci à toi, monsieur Ousmane, de venir faire l'émission tous les soirs.
Merci beaucoup, merci.
À demain, salut à tous, chers auditeurs.